Temps contre temps. Une émission de Canal Académie,
Priscille Lafitte
et ses invités.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Temps contre temps consacrée cette semaine à Jean Foyer. Bonjour Jean Foyer.
Bonjour.
On vous connaît surtout pour vos qualités de juriste lors de la rédaction de la Constitution de la Ve République, comme garde des Sceaux dans le gouvernement Pompidou, entre autres. Ce serait oublier votre implication dans l'indépendance des colonies françaises et la mise en place de la politique de la coopération. Vous avez entre autres été secrétaire de la commission d'études de l'Union française à la présidence du Conseil à partir de 1947, conseiller du ministre Houphouët Boigny entre 58 et 59, sénateur de la communauté en 59 et surtout ministre de la coopération dans les années 1961-1962. C'est exact.
C'est exact.
C'est justement cet aspect en particulier qui intéresse les deux jeunes personnes que vous avez en face de vous, Jean Foyer, deux étudiantes à Sciences Po, l'une en master et l'autre en thèse. Bonjour Isaline Bergamichi. Bonjour Charlotte Buet.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez chacune entrepris un travail de recherche dans le domaine de la coopération. Quel est-il, peut-être Isaline ?
Alors, je suis actuellement en master de recherche à Sciences Po, où j'écris un mémoire sur la réforme du dispositif de coopération français, qui a eu lieu en 1998, qui a entériné la disparition du ministère de la coopération. Et donc, j'essaye d'interroger la question de la normalisation, à travers cette réforme, des relations entre la France et le continent africain.
Et vous, Charlotte ?
Moi, je suis en première année de doctorat en relations internationales à Sciences Po, et je prépare une thèse sur le rôle de l'aide publique au développement dans la construction européenne. Et je m'intéresse particulièrement au rôle de la France dans la formation de la politique européenne de développement, puisqu'elle en a été l'instigatrice.
Donc deux sujets complémentaires, on va dire. Le but de cette émission, c'est la confrontation entre deux générations, que ces deux jeunes personnes puissent vous poser à vous, monsieur le ministre, des questions sur toute l'expérience que vous avez engrangée, sur l'indépendance des colonies que vous avez vous-même accompagnée. Comment en êtes-vous venu à vous occuper de ces affaires qui étaient absolument critiques à cette époque, l'éclatement de l'Empire français, l'indépendance des colonies. Comment est-ce que ça vous est tombé entre les mains ?
Écoutez, je m'étais occupé un petit peu de ces questions au lendemain de l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946, parce qu'avec plusieurs de mes amis, nous avions appartenu ensemble au moment de la libération au cabinet de René Capitan à l'Éducation nationale, et nous sommes devenus à ce moment-là les collaborateurs de l'ambassadeur Éric Labonne, qui était chargé d'une mission d'étude sur la mise en œuvre des textes sur l'Union française à la présidence du Conseil. Puis après ça, il s'est écoulé une période durant laquelle je ne me suis pas beaucoup occupé d'affaires africaines. J'ai terminé ma thèse de doctorat et j'ai passé l'agrégation de droit privé. Je n'étais donc pas un spécialiste à ce genre de problème. Mais j'avais eu, quand nous étions ensemble, j'avais eu un camarade au cabinet du René Capitan qui, en 1958, était devenu le chef de cabinet du président du Sénat, qui était Gaston Monnerville. Alors, il faut savoir que pour la préparation du projet de constitution, le général de Gaulle avait constitué un comité interministériel qu'il présidait le soir, qui comprenait les quatre ministres d'État, le vice-président du Conseil d'État et le secrétaire général du gouvernement. Cependant que de son côté, le garde des Sceaux, qui était membre du comité aussi, le garde des Sceaux avait constitué une petite équipe qui a reçu le nom de groupe de travail, qui sous son autorité préparait des projets de texte que le soir, quand il les avait acceptés ou corrigés, il présentait lui-même au comité interministériel. Et il avait invité les quatre ministres d'État qui composaient ce comité, il les avait invités à désigner un représentant qui siégerait dans le groupe de travail en question. Alors le ministre d'État Félix Houphouët Boigny connaissait pas de juriste. Et s'est adressé au président du Sénat en demandant de lui en désigner un. Et le président du Sénat a confié cette mission à mon ancien collègue, qui était à ce moment-là son chef de cabinet, et qui s'appelait Jean-Michel Quintard. Alors Quintard m'a téléphoné en me demandant si ça m'intéressait de devenir le juriste d'Houphouët Boigny. Alors je lui ai répondu que, évidemment, je n'étais pas constitutionnaliste, donc enfin je pensais qu'un civiliste était plus capable de s'adapter au droit constitutionnel qu'un constitutionnaliste ne serait capable de s'occuper de l'effet déclaratif du partage ou de la purge des hypothèques. Et j'ai accepté. Je me félicite d'ailleurs d'avoir accepté, parce que j'ai fait à ce moment-là, pendant plusieurs mois, un travail qui est extrêmement intéressant. Alors le président Houphouët Boigny m'a convoqué, il m'a expliqué quelle est sa conception, comment il voyait évoluer la situation des pays d'Afrique et de Madagascar à l'égard de la France, et puis à partir de ce moment-là, pendant plusieurs mois, j'ai passé toutes mes matinées au groupe de travail du garde des Sceaux qui se réunissait place Vendôme. Voilà comment je me suis occupé de la chose. Et puis, par la suite, j'y reviendrai peut-être, je suis devenu député dans des conditions qui étaient d'ailleurs tout à fait inattendu. Et à ce moment-là, pendant un certain temps, j'ai continué à entretenir des relations avec les Africains, avec le président Houphouët Boigny et avec son équipe africaine. J'ai même fait des projets de constitution pour un certain nombre de pays africains. Et je me suis occupé de tout ça jusqu'au moment où je suis devenu, le 5 février 1960, secrétaire d'État aux relations avec les États de la communauté. À ce moment-là, la situation avait complètement changé. Les États qui étaient devenus autonomes par application de la constitution de 1958, États de la communauté, les uns après les autres, demandèrent leur indépendance en restant dans la communauté. Alors j'ai eu à ce moment-là un certain nombre d'autres missions importantes à remplir. J'ai négocié avec ces États les diverses sortes d'accords qu'il y avait lieu de convenir avec eux. Et ensuite, j'ai soutenu au Parlement et au Parlement de la communauté la révision de la Constitution de 58 qui permettait à ces États, en devenant indépendants, par voie de convention, de rester membres d'une communauté qui, d'ailleurs, par des circonstances sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, n'a pas eu la vie longue à la suite d'une concurrence, si j'ose dire, entre les Africains.
Non, j'imagine, du coup, vous avez été piqué d'un vif intérêt pour ce sujet.
J'étais d'autant plus intéressé par ce sujet que j'avais la charge de le traiter. C'est moi qui ai négocié toutes ces conventions. Et j'ai été à toutes les proclamations de l'indépendance. Et ensuite, c'est moi qui ai eu la mission de mettre sur pied la coopération dont on était convenu dans les divers accords que j'avais négociés.
Par curiosité, vous avez voyagé dans quel pays d'Afrique?
Je suis allé dans tous. Et dans certains d'entre eux, je suis allé à plusieurs reprises.
Comme lesquels? Lesquels vous avez eu des affinités particulières?
J'ai dû aller trois fois à Madagascar, je suis allé au Sénégal plusieurs fois, je suis allé en Côte d'Ivoire plusieurs fois également. J'ai beaucoup voyagé dans ces pays.
Et à l'époque, c'était vraiment un gros dossier du gouvernement.
C'était un dossier important dans le gouvernement. D'abord, on faisait quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire, représentez-vous que j'étais à ce moment-là une espèce d'obstétricien, une sorte de médecin accoucheur qui était chargé de mettre au monde des états nouveaux, ce qui n'est pas une chose facile. Et d'un autre côté, il fallait s'appliquer à faire accepter cette évolution par la population française, qui l'a d'ailleurs, je dois dire, finalement bien acceptée. Qui l'a bien acceptée pour une raison, c'est à savoir que la terminologie administrative qui avait été en usage sous la Troisième et sous la Quatrième République était en contradiction avec la réalité sociologique. On disait sous la Troisième et la Quatrième République que l'Algérie n'était pas une colonie, mais qu'elle était un groupe de départements, et qu'au contraire, les territoires d'outre-mer, l'AOF, l'AEF, Madagascar, etc., étaient des colonies. Mais c'était le contraire, parce qu'en Algérie, vous aviez des colons français, et malheureusement, vous en aviez trop pour que la décolonisation se passât bien. Au contraire, dans les pays d'Afrique noire et de Madagascar, pratiquement, vous n'en aviez pas. Et vous aviez là-bas des fonctionnaires qui faisaient un séjour colonial, puis qui revenaient, qui s'allaient ailleurs après. Vous avez des militaires qui faisaient la même chose. Il y avait quelques employés de sociétés commerciales ou autres, ou de sociétés qui avaient des intérêts agricoles, mais c'était des gens qui faisaient des séjours, qui entrecoupaient de retour en métropole et puis qui, en définitive, n'y terminaient pas leur vie et leur carrière. Alors, en définitive, dans la mesure où on a réussi à leur faire comprendre qu'au total, ils avaient intérêt à ne pas contrarier les Africains, mais au contraire, à se prêter à une évolution qui était indispensable, ils l'ont dans l'ensemble compris et ça s'est passé dans des conditions tout à fait convenables, sans aucune résistance de leur part. Ça a été tout à fait différent en Algérie, parce que là, vous aviez une population qui représentait à peu près le dixième de l'ensemble, des familles qui étaient là quelquefois depuis plusieurs générations, qui avaient le sentiment d'être chez elles et qui ont très mal accepté l'évolution qui s'est produite. Phénomène d'ailleurs que vous retrouvez dans toutes les situations où vous avez une colonie d'une petite importance dans un pays qui va devenir indépendant et lui échapper. C'est le problème à ce moment-là qui se pose dans l'État d'Israël et de la bande de Gaza, où vous avez des colons qui se sont installés là, qui ont des exploitations agricoles et qui se débattent comme de beaux diables à la pensée qu'on va les en faire partir. Bon, alors voilà dans quelles conditions je me suis occupé de ces questions.
Peut-être venons-en à la question qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire la coopération, phénomène d'aide. Comment est-ce qu'on gère l'après-indépendance dans les colonies françaises, dans les ex-colonies françaises? À commencer donc par une question d'Isaline.
Alors en fait, je voudrais revenir justement sur les fondements de la politique de coopération française à sa création, puisque finalement c'est à cette époque-là que vous avez eu la chance d'y travailler. Et j'aurais voulu savoir quel était l'objectif, selon vous, de cette politique de coopération. Elle a été, c'est vrai, prématurée, elle a tout de suite suivi les indépendances. Et est-ce que vous diriez que l'objectif, c'était finalement d'aider les pays nouvellement indépendants, de faciliter leur transition ou alors de garder la mainmise sur ces pays? Est-ce que vous pourriez revenir sur les intérêts de la France, mais aussi des pays africains à cette époque, à accepter cette politique?
ont écouté très volontiers. Les pays africains ont intérêt à l'accepter. En vrai dire, ils en étaient encore plus demandeurs que nous autres. Il faut d'abord partir d'une constatation, c'est qu'on ne part pas, en 1960, on ne construit pas sur la table rase, et qu'on prend la suite. On prend la suite de quoi ? On prend la suite d'un effort d'aide au développement des pays colonisés, et qui est maintenant devenu un des thèmes de la politique internationale à l'égard des territoires dépendants. Ça a commencé par les proclamations du président Truman au début à propos du développement, de toutes les négociations aux Nations Unies et d'organismes qui ont été successivement créés. Et alors, en ce qui concerne la France, à partir de 1946, la France a commencé à aider, dans des conditions d'ailleurs importantes, l'équipement de ces pays en créant à ce moment-là un fonds qui portait le nom de FIDES, c'était le fonds d'investissement pour les départements, pour le fonds d'investissement pour le développement économique et social. Alors, il y avait donc déjà une des procédures d'aide au développement à l'intérieur du cadre de la République française, puisque tous ces pays-là, à ce moment-là, faisaient partie de la République française. Puis alors est arrivé dans un deuxième temps, au début de 1959, la mise en place de la communauté. Alors les États, à ce moment-là, devenaient indépendants. Alors, à ce moment-là, on a mis à côté de l'aide aux investissements en place une coopération qui a consisté surtout en une assistance technique et en mettant à leur disposition des personnels de fonctionnaires, d'experts, et leur donner la possibilité de continuer à utiliser des organismes de recherche qui avaient été constitués dans la deuxième partie de la quatrième république. On avait dans tous les domaines le café, les oléagineux, etc., etc., l'Orstom, qui était l'office de la recherche scientifique pour les territoires d'outre-mer et autres. Par conséquent, tout ça, on ne part pas de zéro. Et que, en 1960, on continue. Les fonctionnaires français précédemment, qui appartenaient à des services dans lesquels les États étaient devenus compétents, on va leur en laisser un certain nombre pour ne pas créer un vide immédiatement. Alors, notre principale pensée, quand on met en place la coopération en 1960, qu'on leur a d'ailleurs promise par les accords de coopération dont on est convenu avec eux, et on a donc continué dans une certaine mesure sur l'acquis, on ne les a pas laissés tomber, et d'autre part, ce qu'on voulait au surplus et surtout, c'était que de leur tenir au moins la tête au-dessus de l'eau pour les empêcher de se noyer. Parce qu'il est évident que cette indépendance, elle était certainement trop rapide. Ces pays-là, pour la plupart d'entre eux, il y en avait peut-être un ou deux qui pouvaient encore faire figure d'être indépendants. C'était le cas de Madagascar, c'était le cas du Sénégal, c'était même le cas de la Côte d'Ivoire, grâce à la personnalité de Houphouët-Boigny. Et pour les autres, c'était pas acquis. Ils n'avaient pas beaucoup de personnel gouvernemental. Et d'autre part, ils héritaient de découpages de frontières laissés par la colonisation, qui étaient dans une large mesure des découpages irrationnels. Vous avez quelques-uns qui sont évidents, c'est le cas du découpage du Tchad, où on a autant de l'administration coloniale pour la commodité des choses. On avait fait une colonie avec à peu près au milieu Fort Lamy, un sud qui était peuplé de noirs animistes, et puis un nord qui était composé de morts musulmans. Ils s'étaient historiquement très mal compris, si j'ose dire, pendant une très longue période, en ce sens que les gens du nord faisaient périodiquement des razzias au sud pour aller y chercher des esclaves. À l'époque de la colonisation, c'était le gouverneur qui était le patron, avec quelques gendarmes et quelques tirailleurs, il faisait régner une paix parfaite, mais à partir du moment où le gouverneur se retirait, à partir du moment où la gendarmerie était nationalisée dans ces pays, ça devenait très difficile de les faire vivre en paix. Et puis d'une façon générale, vous aviez des pays dont on essayait de faire, dans ce cadre prédécoupé, j'ouvre entre parenthèses que je vais revenir sur le découpage, n'étaient pas des États-nations. Ils étaient peuplés d'ethnies différentes, parlant des langues différentes, qui ne se comprenaient guère entre elles qu'en parlant la langue française, et c'était pas facile d'en faire quelque chose. Alors, ce découpage, on s'est posé la question de dire, dans quel cadre géographique, dans quelles frontières, allons-nous les décoloniser ? Ça aurait d'ailleurs été une entreprise extrêmement difficile parce qu'on était poussé par le temps.
Et puis la question s'est posée pour beaucoup de pays aussi.
Mais oui, mais on était poussé par le temps parce que nos chers Africains, ils n'avaient qu'une pensée, c'était d'entrer le plus rapidement possible aux Nations Unies. Et tout le mouvement avait été déclenché par la sécession de la Guinée, qui n'avait pas voulu entrer dans la communauté et qui, quelques mois plus tard, avait été admise aux États-Unis. Nous n'avions d'ailleurs fait aucune espèce d'opposition. La France n'a mis aucune opposition à ce qu'elle y entrât, alors qu'elle aurait pu l'empêcher, puisqu'il faut un vote de présentation par le Conseil de sécurité, que la France avait un droit de veto au Conseil de sécurité. Bon, on s'est gardé de s'y opposer. Mais alors, l'entrée de Sékou Touré a absolument, complètement bouleversé, si j'ose dire, les autres Africains qui ont voulu y rentrer tout de suite. Alors, il fallait, quand on négociait avec eux, essayer d'en sortir le plus rapidement possible, conclure plutôt, parce qu'ils voulaient entrer aux Nations Unies à l'automne de 1960. C'est dans ces conditions-là qu'on s'est posé la question. On s'est dit, si on entreprend un redécoupage, on va créer un état de guerre qui va durer un siècle. Et alors, ce qui est très remarquable, c'est que l'Assemblée générale des Nations Unies, composée en majorité de délégués d'États devenus indépendants récemment, a un beau jour adopté une résolution en disant que le maintien des frontières laissées par la colonisation était un des principes du droit international nouveau. On voit des choses qui sont quelquefois assez paradoxales, même dans la vie internationale.
Alors nous en reparlons dans quelques instants. Nous sommes donc en compagnie de Jean Foyer, ancien ministre de la Coopération.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
C'est la suite de l'émission Temps contre temps. Nous sommes en compagnie de Monsieur le ministre, ancien ministre de la Coopération en 1961-1962, en compagnie de Charlotte et Isaline, qui toutes les deux mènent des sujets de recherche sur cette période et sur la politique de coopération de la France avec ses anciennes colonies. Toute la question, finalement, est autour aussi de la spécificité des liens entre la France et ses anciennes colonies. Qui de vous deux aimerait poser la question là-dessus, Charlotte ?
Oui, je me demandais, au-delà de la continuation d'une politique entreprise dès 1946, est-ce qu'il n'y a pas une influence très forte de la personnalité du général de Gaulle sur la politique française de coopération au développement ? Est-ce qu'elle n'a pas fait partie de sa grande idée d'influence française, de grandeur de la France ? Et est-ce que la politique de coopération au développement de la France n'a pas servi d'instrument de rayonnement à la France ? Ce qui pourrait expliquer que elle mène une politique de développement relativement unique par rapport aux autres pays occidentaux.
Je crois que cette idée n'était pas étrangère à l'esprit du général de Gaulle, mais qu'elle n'était pas la seule et qu'elle n'était peut-être pas la principale, parce que je crois que dans la circonstance, la pensée du général, et qui a d'ailleurs été maintenue par ses successeurs, c'était d'empêcher que les pays que nous venions de décoloniser ne sombrent dans la confusion. Et que par conséquent, il fallait les aider à faire suffisamment bonne figure, si j'ose dire, sur la scène internationale. Mais ses successeurs ont continué. On a fait des tas de choses dans ce genre-là, peut-être encore davantage en faveur de l'Algérie, où pourtant nous n'avions aucune espèce d'espoir d'exercer une influence véritablement forte, qu'ailleurs, où on a par exemple surpayé le pétrole algérien, alors que rien ne nous obligeait à le faire. Alors, il faut dire que, si on se place d'un point de vue purement économique, je crois qu'il faudrait reliser, si vous me permettez de vous donner un conseil, les travaux du professeur Marseille, qui a montré qu'en réalité, la colonisation française en Afrique, non seulement ne nous avait rien rapporté, mais qu'elle nous avait plutôt coûté cher. Par conséquent, c'était pas une entreprise intéressée économiquement. Il s'agissait de leur permettre de continuer à faire face à la situation. Et certains d'entre eux avaient des situations qui sont très difficiles, à tel point que la coopération, ça consistait pour certains d'entre eux à payer, à combler le déficit budgétaire de ces pays. Ce qui n'est pas, il faut le reconnaître, une activité particulièrement enthousiasmante. Alors vous avez un pays qui a été dans cet état, et était un état évidemment très difficile, c'était le Dahomey qui s'appelle maintenant Bénin. Alors il se trouve que les Dahoméens étaient, le Dahomey avait une population intelligente, et beaucoup de Dahoméens avaient peuplé les cadres d'un certain nombre d'administrations à l'époque coloniale. Alors vous les trouviez dans l'enseignement, vous les trouviez dans les ponts et chaussées, dans les postes, etc. etc. Et alors, le passage, non pas à l'indépendance, mais simplement à l'autonomie, de l'état de colonisation à l'état d'état autonome au début de 1959, a démontré que le racisme n'était pas de nos jours. C'est une abomination, mais qui n'était pas le propre des Blancs, mais qui était également pratiqué par les Noirs. Car il y a eu une explosion de xénophobie, et la plupart des États ont renvoyé à Cotonou les fonctionnaires dahoméens que nous étions prêts à leur transférer. Et alors, brusquement, le Bénin, Dahomey à l'époque, s'est trouvé avec une base considérable de ses ses nationaux, revenus parce que les autres États africains n'en voulaient pas et dont ils n'avaient pas l'utilisation. Ils avaient 3 ou 4 fois de plus de fonctionnaires qu'ils n'en avaient besoin pour administrer ce pays. Et ces fonctionnaires en question, ils ont exigé de continuer à être payés en menaçant dans le cas contraire de faire la révolution. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pendant des années et des années, on a comblé le déficit budgétaire que ce pays était incapable de supporter tout seul, qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir pas pu le supporter. Et ça s'était devenu, dans nos relations avec un certain nombre d'États, quelque chose de tout à fait, qui était devenu presque pratiquement normal. Et l'un de mes excellents amis, qui a été ambassadeur dans l'un de ces pays, je ne vais pas dire lequel, par pudeur, me racontait la phrase suivante, qu'un beau jour, il était allé porter au ministre des Finances de l'État auprès duquel il était accrédité le chèque qui allait permettre à ce gouvernement de faire sa fin de mois, et le ministre des Finances lui a dit avec le sourire, « Monsieur l'ambassadeur, je ne vous remercie pas, car la vache ne remercie pas le pré de l'herbe qu'elle a broutée. » Enfin, vous voyez, c'était devenu ce type de relation s'est poursuivi pendant un certain temps. Et c'était pas le désir de continuer à gouverner dans ces pays qui animaient une telle politique, c'était vraiment le désir de les empêcher de sombrer dans une espèce de confusion.
Alors, est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer un autre aspect de la spécificité française en matière de coopération? Ce sont, il me semble, la création de réseaux d'amitié et d'intérêts personnels entre les dirigeants et les coopérants français et africains. Est-ce que vous pensez vraiment que ça fait une spécificité française et quelles peuvent être les raisons que vous envisagez pour ce développement ?
Bon, écoutez, vous me posez une question qui, en réalité, se devrait se décomposer en plusieurs. Bon, que localement, il y ait eu de bonnes relations entre les hommes politiques et les gouvernants africains et les fonctionnaires français, bon, c'était quelque chose qui était tout à fait normal. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux souhaitaient qu'on laissât à leur disposition des fonctionnaires coloniaux. Et au contraire, et qu'on les laissât même dans des fonctions d'autorité. Moi, une des choses à laquelle je me suis appliqué avec plus ou moins de bonheur, ben, j'ai quand même largement réussi à le faire, c'était de dire, il ne faut plus que vous employiez des fonctionnaires français dans des fonctions d'autorité. Il ne faut plus que vous ayez de fonctionnaires préfets, il ne faut plus que vous ayez de fonctionnaires français ministres, etc. Gardez-les comme conseillers techniques, mais surtout ne leur donnez pas, dans un État qui est devenu indépendant, ne donnez pas à des fonctionnaires de l'ancienne puissance coloniale des pouvoirs d'autorité. Absolument. Alors, maintenant, quant aux relations au sommet, alors là, au début du processus d'accession à l'indépendance, Focard, qui était devenu secrétaire général de la présidence de la communauté, avait fait signer au général de Gaulle une note dans laquelle le général se réservait les relations personnelles avec les chefs d'État africains. Et il est de fait que, personnellement, il a tenu à entretenir des relations avec eux, à les recevoir avec considération. Il les a tous reçus en visite d'État dans un temps qui a duré à peu près 1 an et demi, et que quand ceux-ci venaient à Paris, ils venaient le voir, etc. On a maintenu de ce côté-là des relations étroites, enfin, qui étaient des relations internationales avec un pays ami. Et il est de fait que pendant plusieurs présidences de la République, vous avez eu à côté du chef de l'État des conseillers techniques, secrétaires généraux ou autres, qui ont entretenu des relations très étroites avec les gouvernements africains, que ceux-ci d'ailleurs consultaient spontanément par téléphone pour leur demander comment il fallait faire. Alors, mais ça n'a duré qu'un certain temps, parce que ça existait entre certains Africains qu'on trouvait en place au moment de l'indépendance, puis ils ont été par la suite remplacés, mais enfin, ça durait quand même assez longtemps. Ça a été pratiqué par tous les gouvernements. Le général de Gaulle a eu Focard auprès de lui, que Pompidou avait conservé. Monsieur Giscard d'Estaing a utilisé les services d'un ancien collaborateur de Focard, qui était l'avocat général Journiac. Le président Mitterrand a utilisé notamment ses fils, mais d'autres fonctionnaires chargés d'entretenir des relations directes avec les États africains.
Ou indirectes.
Comment ?
Ou indirectes, parfois.
Ou indirectes. Maintenant, c'est quelque chose qui est en train de s'estomper ou qui a à peu près disparu, parce que 40 ans se sont écoulés. Au départ, ça s'est passé dans des conditions satisfaisantes, mais enfin, nous avions affaire en face de nous, et c'est à ce moment-là que ces États se sont pratiquement le mieux trouvés. On trouvait comme gouvernants en face de nous des hommes qui avaient été précédemment, pendant les 12 années de la 4e République, qui avaient été députés à l'Assemblée nationale, qui avaient été membres du Conseil de la République, qui avaient été conseillers de l'Union française. Tous ces hommes politiques connaissaient très bien les hommes politiques français. Il y avait eu une certaine camaraderie, si ce n'est même de fraternité entre eux. Et puis, et par la suite, ils ont été, comme les hommes politiques français d'ailleurs, eux-mêmes, renvoyés de l'autre côté du théâtre. Alors, ça a complètement changé.
Vous diriez que la politique de coopération était la même sous Mitterrand que...
Elle était à peu près la même. Elle était à peu près la même. Ce qu'a fait Mitterrand, qui a beaucoup changé les choses, et ça, on peut en discuter, c'est qu'il a un beau jour voulu lier la poursuite de la coopération, c'est-à-dire de l'aide apportée à ces pays, à la démocratisation de leur régime. Ce qui était, à mon avis, imprudent, parce que alors, la plupart de ces pays, je vous l'ai dit, ce n'était pas des États-nations. C'était des ethnies, des assemblages d'ethnies assez différentes les unes des autres. Il s'en était tiré en créant avec le système du parti unique. Alors quand il le pratiquait intelligemment, comme l'a fait le président Houphouët-Boigny pendant qu'il a été vivant, c'est-à-dire en donnant place dans ce parti à des gens des diverses ethniques, etc., ça s'est pas trop mal passé. Mais le jour où on leur a imposé, c'est le président Mitterrand qui l'a fait, sous la menace de leur couper l'aide, d'établir le multipartisme, ça a commencé à mal se tourner. Moi, le président Houphouët-Boigny, une dernière fois que je l'ai vu avant sa disparition, m'a dit, après moi, avec ce système-là, après moi, ce sera le chaos. On le voit malheureusement en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Nous sommes en compagnie de Jean Foyer. C'est l'émission Temps contre Temps. On se retrouve dans un tout petit instant.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez, nous retrouvons Priscille Lafitte.
Nous sommes en compagnie de Monsieur le ministre Jean Foyer, qui s'est occupé des débuts de la coopération française en Afrique, mais avant tout des accords d'indépendance auparavant. Et c'est aussi le moment, enfin en 1957, le traité de Rome, souvenez-vous, c'est le moment aussi de la coopération à l'échelle européenne. Une coopération finalement que la France a mené à bout de bras à Bruxelles, Charlotte.
Oui, justement, monsieur le ministre, vous venez d'évoquer le tournant pris par le président Mitterrand avec la mise en place de la conditionnalité politique. Ça, c'est aussi très lié à la politique européenne de développement qui avait mis en place ce genre de clause depuis 1978. Et moi, j'aurais voulu revenir un peu en arrière sur le thème des liens complexes entre la politique française et la politique européenne de développement. Et vous en avez vécu les toutes premières années, puisque la politique européenne a été mise en place en 1957. Et j'aurais voulu avoir votre expérience d'acteur sur le rôle précis qu'a eu la France dans ses premières années, puisqu'elle a plus ou moins monopolisé la politique européenne de développement. Elle avait droit de regard sur tous les projets qui avaient lieu dans ses ex-colonies, qui étaient les principales bénéficiaires. Et j'aurais voulu avoir votre vision d'acteur de ses premières années de la politique européenne.
Bon, écoutez, cette politique européenne a été, effectivement, j'allais dire, pas imposée, mais tout au moins exigée par la France au cours de la négociation du traité de Rome.
Ça s'est fait bizarrement aussi.
Comment ?
Ça s'est fait assez bizarrement, si je peux dire.
Ça s'est fait assez bizarrement. Vous savez, finalement, la situation et de la France et de la communauté européenne à l'égard du développement des pays d'Afrique a quelque chose de comparable avec le problème de la politique agricole. Par l'effet du traité de Rome, à tout au moins à échéance, les 6 pays qui composaient à l'époque la communauté allaient avoir la possibilité de déverser leurs produits sur l'Afrique. Alors la France a dit, tout ça c'est très bien, mais jusqu'à maintenant, ce sont nous autres qui supportons la charge de l'aide à développement à ces pays, il faut que vous vous y mettiez vous aussi. Et on leur a dit la même chose en ce qui concerne la politique agricole commune, en leur disant maintenant, vos produits industriels vont entrer librement sur le territoire français, il faut que vous nous aidiez, qu'en conséquence, vous laissiez entrer les produits agricoles et puis que vous nous aidiez à moderniser l'agriculture. C'est comme ça que ça s'est présenté. Et alors, au fond, dans cette affaire-là, le souci, qui n'a d'ailleurs fait qu'augmenter, et qui se manifeste encore très actuellement à l'heure actuelle, c'était en grande mesure d'essayer de repasser le bébé, si j'ose dire, à la communauté européenne et de faire supporter par les autres pays de la communauté la charge du développement des pays d'Afrique et de l'ensemble des pays d'outre-mer. C'est comme ça que ça s'est présenté.
Comment les autres pays ont accepté un tel
chantage ? Parce qu'ils ont quand même accepté, parce qu'ils avaient envie de conclure le traité. Il s'agit de bien négocier. Quand on sait négocier, on arrive à faire avaler à ses interlocuteurs des choses qui, au premier abord, peuvent paraître difficiles.
Ça a été difficile.
C'est toujours difficile quand vous voulez faire cracher un autre gouvernement. Ils ne sont jamais empressés de s'engager à donner donner de l'argent. Ben, il faut s'y prendre convenablement. Alors, ils avaient envie de faire la communauté. La France, dans la mesure où elle disait qu'elle y mettait cette condition-là, finalement, eh bien, les autres marchaient. Et en trouvant qu'à terme, ça aurait tout de même un certain intérêt pour eux. Mais là, dans la gestion de l'aide de la communauté, nous n'avions pas de pouvoir qui était supérieur aux autres. La gestion du Fonds européen, qui s'est d'abord appelé le Fonds européen pour le développement d'outre-mer, et puis après, qui s'est appelé par la suite uniquement le Fonds européen de développement, il était, en vertu d'une clause du traité de Rome, il était géré par la Commission et pas par le gouvernement français. Ce que nous avons essayé de faire, et qu'on continue encore à faire à l'heure actuelle, comme nous continuons à pratiquer une aide bilatérale de notre côté, eh bien, c'est d'essayer de se mettre d'accord avec la Commission pour faire une répartition des aides en disant « Vous allez financer ces projets-là, et nous allons nous financer ceci. » C'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, finalement, c'est tout à fait manifeste à l'époque contemporaine où la France a quelques ennuis de financement par la force des choses. Elle a des déficits budgétaires qui sont énormes. Elle s'est chargée d'une dette publique absolument colossale. Les gouvernements, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite, dans la mesure où quelques agitateurs font des manifestations dans la rue, des grèves ou autres, ils ont la hantise de les calmer. Ils leur déversent des milliards. Par conséquent, nous ne sommes pas en force pour faire à l'heure actuelle une politique exagérément généreuse. Et par conséquent, il s'agit plutôt d'inciter les voisins à faire un effort. Quoi qu'il ne faille pas d'ailleurs dire trop de mal de l'aide de la France, parce que l'échelon international, on a essayé d'imposer aux États un minimum de contribution au développement. Mais on a réduit beaucoup les prétentions au fur et à mesure. Et à l'heure actuelle, le chiffre doit être d'un minimum de 7% du produit national et ne respecte cette proportion sur la face de la Terre que la France, les Pays-Bas et les trois États scandinaves. Tous les autres sont sensiblement au-dessous du 0,7.
Charlotte. Pour en revenir au début de la politique européenne, quelle a été la réaction des dirigeants africains, vous qui avez bien connu Mfouet Boigny par exemple? Est-ce qu'ils étaient soulagés de traiter avec un autre bailleur que la France? Et est-ce que le partage du fardeau avec l'Europe était bien accepté? Ou est-ce qu'au contraire, il y avait un besoin de maintenir une relation plus étroite avec l'ex-puissance coloniale?
C'est-à-dire que je crois qu'ils étaient surtout préoccupés d'obtenir des aides. Je crois que dans un certain sens, ils aimaient encore mieux avoir à s'adresser au gouvernement français que de s'adresser à la Commission européenne, parce que quand ils s'adressaient à la Commission européenne, on procédait à des examens très sérieux du caractère de l'équipement réalisé, des dépenses récurrentes qu'il allait emporter, de l'état de financement du pays, etc., etc. La Commission européenne, dans la gestion de cette aide, elle se conduisait comme ferait une banque d'affaires, en sous-pesant le projet. Il faut dire que quand il s'agissait de l'aide française, ces considérations n'étaient pas seules à intervenir. Et que lorsque l'État africain faisait une forte pression politique pour obtenir satisfaction, il arriva qu'on lui finançait des projets qui n'étaient pas extraordinairement enthousiasmants du point de vue économique, mais parce que politiquement, on ne souhaitait pas les contrarier. Il y a eu un peu cette différence-là. Et c'est pour ça que certains disaient que la gestion de l'aide, ça avait commencé à être dit dès le rapport Jeannet, qui doit être de 1963, où souhaitait que la dispensation de l'aide fût faite par un organisme indépendant du gouvernement et qui géra cette aide selon des critères économiques et pas selon des considérations politiques. Mais ces idées-là n'ont pas eu beaucoup de chance auprès des gouvernements successifs, parce qu'il faut bien dire que c'est souvent les gouvernements qui ont conçu cette aide comme le moyen de se montrer, de faire des gentillesses, si j'ose dire, au gouvernement qui l'a demandé.
Est-ce qu'il y a eu une véritable rivalité entre la France et la Grande-Bretagne en matière de politique de développement? Est-ce que vous pensez que l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne a été mal vue par la France parce que ça voulait dire l'entrée des pays du Commonwealth et donc la fin de la mainmise française?
Écoutez, je ne crois pas qu'en définitive, l'influence britannique sur les pays d'Afrique ait été vraiment très sensible et qu'elle ait changé grand-chose. Il me semble d'ailleurs que d'une façon générale, les Britanniques ont mis moins d'argent que nous n'avons mis nous dans cette aide au développement des pays africains.
Pourtant, institutionnellement, c'est vrai qu'on voit que les liens sont plus étroits dans le Commonwealth qu'ils ne l'étaient dans les institutions de la pré-colonisation française.
Oui, écoutez, je crois que si vous comparez la situation, je crois qu'au total, dans l'ensemble, notre décolonisation s'est plutôt mieux passée que celle de nos voisins. Je parle pas de la Belgique, dont on a vu comment se sont déroulées les indépendances et poursuivies de ces anciennes dépendances de l'Afrique centrale, que ce soit le Congo de Kinshasa, que ce soit le Rwanda, le Burundi, etc., etc. Au total, dans les pays français, finalement, les choses ne se sont pas trop mal passées, mais par un paradoxe tout à fait pénible, c'est dans le pays où le développement avait été le meilleur que la situation est aujourd'hui la plus tendue, et je veux parler de la Côte d'Ivoire.
Une tension aussi en Algérie.
Ah oui, mais l'Algérie, c'était tout à fait différent. Il était certain que ça ne pouvait pas bien se passer en Algérie. Parce qu'on avait quand même fait la guerre de 1954 à 1962. Tandis que dans les pays africains, on a fait l'indépendance sans avoir tiré un coup de fusil et sans avoir tué une seule personne. C'est un travail qui a tout de même été bien fait.
J'aimerais, Monsieur Foyer, avoir votre avis. Parce que certains commentateurs ont pu dire en 1998, d'une part, que la France abandonnait l'Afrique et qu'elle voulait banaliser ses relations avec le continent. Et d'autre part, le gouvernement qui répondait qu'on cherchait plutôt qu'une banalisation, une normalisation des relations. Je voudrais avoir votre avis sur ces deux points.
Oui, mais si vous me le permettez, je vais tout de même faire un petit historique de cette question. Alors, au départ, lorsque ces pays deviennent indépendants, j'étais secrétaire d'État aux relations avec les États de la communauté. Moi, je me trouve investi de l'ensemble des questions des relations de la France avec ces pays. À la fin de l'année 1960, à un conseil des affaires africaines que présidait le général de Gaulle, j'avais proposé de supprimer mon secrétariat d'État et de rattacher toutes ces affaires au ministère des Affaires étrangères. Mais ma proposition n'a pas été bien accueillie. D'ailleurs, elle était un peu imprudente de ma part, car j'étais secrétaire d'État et j'exerçais des fonds auprès du Premier ministre. J'exerçais donc des attributions qui étaient celles du Premier ministre. Et Michel Debré était très opposé à la chose. Il était persuadé qu'au ministère des Affaires étrangères, personne ne s'intéresserait à ces malheureux pays d'Afrique et que par conséquent, il valait mieux conserver une structure propre. Alors, de la part des Africains, il y avait un sentiment mêlé. D'un côté, ils souhaitaient que leurs relations politiques fussent traitées par le Quai d'Orsay parce qu'ils considéraient comme un signe d'indépendance que leur ambassadeur gravisse le degré du Quai d'Orsay. Mais d'un autre côté, ils avaient le désir que les relations de coopération restent à côté et que notamment la masse budgétaire qui était affectée à la coopération avec les États africains ne tombe pas dans le Fonds commun des affaires étrangères. Alors, la chose s'était réglée au mois d'août 1961, où les affaires politiques sont passées aux affaires étrangères et où elles ont été confiées à Georges Gors. Et puis, le reste, je l'ai conservé avec une extension territoriale à d'autres pays africains et on m'a donné le titre de ministre de la coopération. Mais dès ce moment-là, le ministère des Affaires étrangères n'a eu en vue, il y a quand même réussi maintenant, mais il lui a fallu très longtemps pour le faire, de faire disparaître ce ministère de la coopération et de récolter l'ensemble des attributions. Mais pendant très longtemps, il n'y est pas parvenu. Et on a maintenu un ministère de la coopération distinct, dont certains titulaires d'ailleurs ont fait un travail important comme ministre d'une coopération qui était distincte de celle du Quai d'Orsay. Je parlais en particulier de Raymond Triboulet, qui a été relativement longtemps ministre de la coopération. Et cette organisation-là plaisait beaucoup. Finalement, les Africains s'en accommodaient très bien. Et surtout, les collaborateurs du président de la République aimaient beaucoup ça, parce que ça leur permettait de jouer lorsque se produisaient des tensions entre les deux départements ministériels. Ils apparaissaient là-dedans un peu comme arbitres. Il faut dire que les Africains ont essayé d'en jouer aussi et que si le ministre de la Coopération leur refusait de financer un projet, ils allaient ensuite pleurer auprès du secrétaire d'État aux Affaires étrangères et puis du coup, le secrétaire général de la communauté ou le conseiller du président de la République intervenait là-dedans. Alors, ça lui permettait d'exercer une certaine action que la plupart des collaborateurs des présidents de la République n'ont nullement négligé. Mais progressivement, d'ailleurs, les choses ont un petit peu évolué, car la réforme dont vous parlez de 1998 a quand même été précédée un certain nombre de fois par le fait que la coopération restait distincte, mais qu'elle était confiée à un secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de sorte que ça relevait quand même, en définitive, du ministre des Affaires étrangères. Ça n'a pas toujours eu beaucoup de conséquences, parce que finalement, il ne semble pas que les ministres des Affaires étrangères se soient considérablement intéressés à ces questions-là, quels qu'ils aient été. Mais finalement, la réunion de tout cela avait quand même quelques justifications, parce que c'est pour là que vous parlez de normalisation. Vous avez peut-être raison de parler de normalisation, parce qu'en définitive, le ministère des Affaires étrangères faisait déjà de la coopération avec d'autres pays que nos pays africains, et il a fait valoir à plusieurs reprises qu'il envoyait davantage de coopérants dans des pays africains que le ministère de la coopération en envoyait en Afrique noire. Parce qu'on a quand même fait en Afrique noire un effort pour réduire progressivement le nombre des coopérants, et ils n'ont pas globalement beaucoup diminué, mais enfin, ça a changé par catégorie, parce que finalement, on a surtout envoyé des enseignants et des personnels de santé. Mais finalement, mettre le tout dans le même sac, ça répondait à plusieurs justifications. La première, c'est qu'en ce qui concerne l'assistance technique, dans un premier temps, on avait beaucoup employé d'anciens fonctionnaires de la France d'outre-mer, pour la bonne raison que ceux-ci connaissaient ces pays. Mais maintenant, comme depuis 1959, les anciens cadres, les anciens corps de la France d'outre-mer ont été supprimés, et que bien entendu, on n'a pas formé de nouveaux administrateurs ou de nouveaux fonctionnaires coloniaux, si j'ose dire, maintenant, on va puiser dans les mêmes viviers des ministères métropolitains les coopérants, qu'on les envoie en Afrique noire ou qu'on les envoie en Afrique ou même en Amérique ou en Asie, dans la mesure où il y en a quelques-uns. Et alors, d'autre part, en ce qui concerne l'aide, les crédits d'investissement, car c'est surtout de ça qu'il s'agit maintenant, eh bien, c'est pareil, l'idée d'étendre notre aide, l'aide de cette nature à d'autres pays, parce que ça, le ministère des Affaires étrangères, au départ, en faisait pas beaucoup. C'était une idée que le général lui-même avait eue dans les années 1960, où il aurait étendu et souhaité que l'on étendît cette aide à d'un plus grand nombre de pays. C'est ce qu'en définitive, on a décidé de faire. Et alors, finalement, je crois que la réunion de toutes ces attributions au ministère des Affaires étrangères, avec une direction générale qui est maintenant commune à tout ce monde-là, c'était dans la nature des choses. Et que, dans la mesure où vous n'aviez plus à côté du président de la République un personnage aussi influent que l'ont été les Focard et autres, finalement, tout le monde a dû considérer que c'était dans la nature des choses, encore que peut-être aujourd'hui, il y ait un certain effort de la présidence de la République pour reprendre un rôle personnel, si j'ose dire, un peu plus important dans ces pays. Voilà comment j'explique la chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Je suis très satisfaite de la réponse, puisque moi, vraiment, je m'interroge sur cette notion de normalisation. Et vous avez notamment mentionné un point important, celui d'élargir en fait l'aide à d'autres pays que ceux du champ du précaré traditionnel.
Ça vous semble une politique souhaitable à vous ?
Oui. Moi, je crois que c'était dans la nature des choses. Nous ne pouvions pas indéfiniment maintenir des relations strictement différentes avec ces pays. Je crois qu'il est nécessaire et souhaitable d'avoir de bonnes relations avec eux. Parce qu'il y a des choses que nous ne faisons pas bien et que nous devrions faire davantage. Par exemple, à l'heure actuelle, dans certains de ces pays, vous avez des jeunes gens, des jeunes hommes ou de jeunes femmes qui sont d'excellente qualité et qui ont de grandes capacités, on devrait faire un effort de bourse important pour essayer de les attirer en France, alors qu'on constate que les meilleurs d'entre eux n'ont qu'une pensée, c'est d'aller faire des études dans des universités américaines.
Oui. Charlotte, par rapport à justement cet élargissement de la politique de coopération, cette fois-ci à l'échelle de l'Union européenne ?
De l'Union européenne et de la France, en fait, pour résumer un peu tout ce que vous nous avez dit au départ que la France ne voulait pas laisser sombrer ses ex-colonies dans la confusion.
C'est certain.
Et je pense que derrière tout ça se profile l'idée qu'on avait une responsabilité vis-à-vis des ex-colonies.
C'est vrai.
Que la France et l'Europe avaient une responsabilité historique. Et maintenant, quand on parle d'élargissement, est-ce que ça veut dire que le temps a fait son œuvre et qu'il n'y a plus de responsabilité particulière, qu'elle soit française ou européenne, vis-à-vis de ces ex-colonies et que donc la politique de développement est vouée à changer de nature et à se mondialiser ?
Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il reste tout de même une chose, c'est une idée morale, à savoir combien d'organismes s'en occupent et répètent des choses de cette nature. Il y a quand même une obligation pour le monde, pour le Nord, puisqu'on parle de cette expression, de venir en aide au Sud. Malheureusement, je dois dire qu'on éprouve quelque anxiété quand on lit, ou surtout qu'on remarque certains graphiques. Par exemple, on vient de publier récemment le compte-rendu d'un colloque a été organisé récemment autour d'un démographe américain qui a d'ailleurs un nom français, qui s'appelle Paul Deveny et qui publie un certain nombre de graphiques. Quand on voit quelles sont les perspectives d'évolution de l'humanité d'ici à 1950, avec la stagnation à peu près totale de la population européenne, on se dit que comment arrivera-t-on à faire quelque chose et est-ce que nous ne sommes pas en train d'essayer de remplir un tonneau des Danaïdes ? Vous avez un certain nombre de ces graphiques, j'en vois un ici, c'est des projections, enfin qui doivent probablement être assez exactes. Vous voyez que la population sous-saharienne, qui était à peu près 200 millions d'hommes en 1950, on nous indique que vraisemblablement cette population, en 2050, serait de l'ordre d'1,5 million, c'est-à-dire d'1,5 milliard. Comment arriver à faire quelque chose dans ces conditions-là, c'est une perspective qui est tout à fait effrayante.
Certains en viennent à regretter des relations bilatérales libérale un peu privilégiée comme la France pouvait en avoir avec ses colonies, c'est bien ça Charlotte?
À regretter la perte d'une spécificité, qu'elle soit française ou européenne, particulièrement au niveau européen, l'idée que l'Europe n'a plus vraiment de pertinence à être elle-même un bailleur, puisque si elle élargit son aide au monde entier, elle ne se différencierait pas de l'ONU ou de la Banque mondiale, alors que si elle se recentrait sur les ex-colonies, elle pourrait se fonder sur l'idée de responsabilité historique ou morale vis-à-vis de ses ex-possessions. C'est tout le débat en ce moment, enfin un des débats européens.
Jean Foyer, qu'est-ce que vous en
pensez? Oui, ce que vous dites a beaucoup de pertinence, j'en conviens. Seulement, d'un autre côté, au fond, le fond de l'affaire, c'est que la France, elle est à l'heure actuelle surtout le désir de se délester sur l'Europe. Et que si elle-même ne dit pas que maintenant, elle veut élargir ses distributions au reste du monde et les réserver à l'Afrique, ça risque d'avoir une conséquence internationale, c'est qu'on nous dise, vous occupez-vous de l'Afrique et puis nous nous occupons du reste.
Ce qui n'est pas évident.
Comment?
Ce qui ne serait pas facile.
Ah, ce ne serait pas facile. Si, parce que dans une certaine mesure, on ne le dirait pas, mais on le ferait. À l'échelon international, on le ferait, en disant, écoutez, vous ne voulez aider que les pays africains, très bien, faites-le. Mais alors, nous autres, à ce moment-là, on ne va plus le faire autant.
Tout d'un question, est-ce que la France a toujours l'impression de représenter les pays africains au niveau international? Est-ce qu'elle a toujours ce bagage?
Je crois qu'elle ne peut plus guère le faire maintenant. Les représenter, c'est-à-dire, on leur avait offert une chose, dans les accords que j'ai négociés en 1960, on leur avait proposé, c'était pas une obligation, on leur avait proposé d'assurer leur représentation diplomatique dans les pays où ils ne voulaient pas faire les frais d'entretenir eux-mêmes une représentation. Mais ils aiment tellement les fonctions diplomatiques qu'ils n'ont à peu près pas utilisé cette faculté qu'on leur laissait, c'était leur affaire.
C'est la fin de cette émission Temps contre Temps. Je remercie chacun des intervenants d'être venus dans ce studio. Je remercie en particulier Jean Foyer. À la semaine prochaine pour un autre Temps contre Temps.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.